Actu SF, les podcasts.
La conférence, concerne l'histoire du général Emilio Herrera. Qui est le général Emilio Herrera? Son nom laisse entendre qu'il est d'origine espagnole, pour le coup, oui. C'est un Andalou, né en 1879, dans une famille de militaires. Tout le monde s'appelle Emilio, tout le monde s'appelle Herrera, c'est la famille. Le père et le fils, et on est
les militaires.
L'intérêt de Herrera, nous, c'est que c'est quelqu'un qui s'est immédiatement intéressé à l'aviation et d'abord au ballon. Alors là, on le voit, lui, sa carrière, il a déjà fait quelques galons. On le voit avec son premier fils à bord d'un aéroplane. Nous sommes évidemment avant la guerre de 14. Alors, Herrera, c'est un ingénieur astronautique. Hein. Il va avoir un rôle très très important dans le développement de l'astronautique à l'Espagne. Il va beaucoup s'intéresser au transport dirigeable, notamment. Hein. Il a tenté dans les années 20 de créer une ligne dirigeable entre l'Espagne et l'Amérique du Sud. Il approche pour ça les concepteurs des dirigeables de Zeppelin, qui sont son prédécesseur, le cas de dire, et qui essaie d'imposer le Zeppelin comme moyen de transport pour traverser l'Atlantique. Herrera participe à plusieurs des voyages, notamment dans le Grand Zeppelin. Il fait la promotion pour ce type de transport. Mais pas seulement Herrera, il ne s'intéresse pas seulement à l'aéronautique, hein, il s'intéresse aussi au développement scientifique les plus sur son temps, puisqu'il accueille Einstein en Espagne, on a eu des années aussi, toute une série de conférences. Et Einstein aura la gentillesse de dire que Herrera semble avoir compris la théorie de la relativité. Ce qui est de la part d'Einstein une belle page. Et pour le coup, les deux hommes entretiendront une conférence relativement suivie jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Herrera est un passionné d'aéronautique, crée à l'Espagne des laboratoires de recherche, dont un laboratoire doté d'une soufflerie, c'est une première. Une première en Espagne, c'est une première un peu dans le monde entier. Hein. Herrera conçoit sa propre soufflerie et fait mener des études dans son institut sur l'étude du fonctionnement des avions qui est encore pas si bien connu que ça, hein, même après la Première Guerre mondiale. Pourquoi un avion grand mais pas une chose qui est si nette que ça? Et la mise au point des tunnels, des souffleries pour. Aéronautique est une affaire extrêmement compliquée. Herrera est à la fois un physicien et un mathématicien, parce qu'il est capable vraiment de discuter avec Einstein, mais il fait des travaux assez considérables qui font que la soufflerie qu'il met en place acquiert très vite une réputation. Alors, une autre idée d'Herrera, qui est un grand lecteur depuis sa jeunesse de Jules Verne, ça c'est une chose qui est très importante, tous les sociologues nous expliquent aujourd'hui que Jules Verne, finalement, n'est peut-être pas si optimiste sur le progrès que cela, que les inventions qu'il enseigne dans ses romans sont détruites à la fin. Tout ceci est absolument vrai. Mais ses lecteurs n'en ont rien à faire. Hein. Ses lecteurs de l'époque, hein, donc Herrera, ses lecteurs de tout jeune garçon de la fin du 19e siècle, Herrera, c'est la conquête. C'est la conquête de la science, c'est les instruments nouveaux, les moyens de transport nouveaux qui vont permettre des avancées considérables dans le savoir. Tout le monde le prend comme ça. Herrera lui-même, et également pas seulement Herrera, mais son collègue exactement le même âge que lui, qui a fait les mêmes études de lui, qui s'appelle Alfredo Quintela, excusera pour les prononciations, je sais pas si ça se prononce en espagnol. C'est exactement la même personne que Herrera, à un détail près, c'est que Herrera va devenir va rester fidèle à la République lors du déclenchement de la guerre civile en 1936, et va, pendant la guerre civile, à être nommé général, si on peut encore, et s'occuper du poste de supervision technique de l'armée aérienne américaine. Alors que son vieil ami, Fernando, lui fera à peu près la même chose, il dirigera l'aviation espagnole, mais l'aviation espagnole rebelle, frontiste. Hein, voilà. Donc c'est typique de l'histoire, on s'est aperçu de ces ingénieurs militaires, militaires en général espagnols de l'époque, c'est qu'une partie, évidemment, va rester fidèle à la République, hein, une partie va passer chez Franco. Je n'ai pas fait ce sondage, enfin on va dire que c'est quand même assez très largement majoritairement franquiste. La plupart des militaires, oui.
Il me semble que c'est presque à 90% des militaires.
Oui, je ne sais pas avancer
j'ai pas les chiffres.
Oui.
En fait, j'ai tout juste de terminer le livre d'Anthony Bévor sur la guerre civile espagnole.
Voilà, désolé. Donc, Herrera est sans doute un petit peu atypique. C'est l'image, ça dit, c'est l'image de l'espagnol. C'est sans doute une image, comme toutes les images que les Français avec son VR, etc., qui est qu'il a prêté un serment, et lui, il a prêté un serment à la République, et il a prêté un serment à la République. Et il répétera tout le temps dans ses mémoires que Franco avait lui aussi prêté un serment à la République. Lui a tenu sa parole. La plupart de ses amis, collègues, lui l'a respecté jusqu'au bout, à tel point d'ailleurs qu'il deviendra général, il aura des responsabilités très grandes pendant la guerre. Et après la guerre, il fera même partie du gouvernement républicain espagnol à l'exil. Lui, il reste fidèle jusqu'au bout. C'est le cas de l'exil. En fait, Herrera, avec le militaire, la chose militaire n'est pas ce qui l'intéresse le plus. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les sciences, et notamment. Ça peut être de l'espace. Là, vous avez là ce qui est considéré comme le premier scaphandre. Le premier scaphandre spatial, vous avez reçu. Herrera le conçoit comme un vêtement qui va servir à des aéronautes qui vont s'élever environ à 25 000 mètres d'altitude. Alors, ce type d'exploit de conquête de la stratosphère est déjà réalisé à l'époque par un contemporain d'Herrera, qui est le sœur Picard, que vous connaissez de Picard, c'est
Georges Lou.
Alors, on le connaît aussi dans Tintin, aussi, voilà. Puis ses descendants, qui va faire
Star Trek.
Voilà, dans Star Trek, notamment. Et Picard, d'ailleurs, assiste aux premières expériences de Herrera, de l'entourage et tout, et fait remarquer qu'effectivement, Herrera a raison. Lui, Picard, quand il a fait ses expériences dans la stratosphère, dans sa sphère, il avait beaucoup de mal à faire des observations scientifiques, hein. C'est pas encore très, très au point, comment relever, comment faire des relevés correctement quand elle est dans une sphère fermée. C'est faisable de Picard, on est encore, je parle de Picard congelé dans la stratosphère des années 30, hein. On est encore dans une âge assez héroïque, lui il a du mal à faire des relevés. Herrera, il considère qu'il suffit d'avoir une bonne, un bon costume et qu'on fait des relevés à l'ancienne dans la nacelle, à condition d'être revêtu de ce magnifique scaphandre. Or, là, lui, voilà, avec le général Herrera, les rencontres générales, on allait très bientôt avec le casque. Et en effet, au moment, pratiquement, où le ballon d'exploration va être lancé, alors que la guerre civile éclate, se rebelle, etc. Et donc, l'expérience aéronautique, presque astronautique, d'Herrera est reporté. Il espère au moment que les choses vont se passer, qu'il va tout de même pouvoir mener son expédition avec son scaphandre. Il espère pendant quelques semaines, on va dire, mais il voit vite que la situation ne le permettra pas. Et pour tout dire, le tissu imperméable qui servait à faire son ballon stratosphérique sera découpé et servira à fabriquer des capotes pour les soldats. Les capotes pour les soldats. Et plus tard, son gros scaphandre tombera entre les mains des franquistes. Je ne sais pas trop quel est le sort qui a été réservé au scaphandre, je n'ai pas trouvé de détails à ce sujet. Alors, la guerre civile se passe passe mal, enfin, se passe mal pour beaucoup de gens. Si j'avais un autre document que je voulais montrer, mais là c'est avec son fils, Michael Sparrow, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc Herrera est obligé de quitter l'Espagne, évidemment, en 1939, hein, par Brésil. Il s'installe en France, et là, bon, je ne vous dis rien, on est en 1939, les choses vont assez vite. Il trouve de l'emploi en France, auprès d'un organisme qui vient juste d'être créé, qui existe d'ailleurs toujours cet organisme. Il faudrait que je retrouve le nom de cet excellent organisme français. Et il écrit quelques articles, et puis la guerre éclate. Alors, heureusement pour Herrera, qui vit à Paris, dans un petit appart, il a quand même pas mal d'amis et il va réussir à gagner un petit peu d'argent en faisant des études scientifiques pour cet institut et un métier français. Alors, c'est une chose qui est intéressante, je me suis intéressé à l'histoire de ce personnage, c'est de voir que les recherches scientifiques continuent un peu partout, y compris dans des pays occupés comme la France, même s'il y a un regard allemand dessus, toujours à différents niveaux. Il y a tout de même des travaux qui continuent, des recherches qui continuent à être menées avec toujours, quelque part, des ingénieurs militaires allemands qui essayent de savoir ce qui se passe et qui essayent de mettre la paix par ci par là. Mais il y a une continuation des études. Donc cet institut lui fait gagner un peu sa vie. Et puis il écrit des articles dans la revue d'un de ses amis qui est l'aérophile. L'aérophile, c'est une revue de la nation française que vous avez vue. Et pour l'aérophile, il écrit toute une série d'articles directement en français. C'est pour ça que je considère que Herrera est un auteur français, malgré tout, directement en français, sur qu'est-ce que l'aéronautique. Attention, ce sont des articles très, très sérieux et pas toujours de lecture aisée. L'aérophile est une revue qui s'adresse à des lecteurs qui ont tout de même un certain niveau. En tout cas, pour suivre un certain nombre d'articles, dont ceux de Herrera. Alors pourquoi Herrera m'intéresse ? C'est que dans la très longue série d'articles qu'il va faire sur qu'est-ce que l'aéronautique, d'un point de vue technique, hein, il va les illustrer par des dessins qu'il fait lui-même. Il va les illustrer par des dessins, des graphiques, hein, il y a beaucoup de dessins, plus de 800 dessins. Tous ces dessins vont paraître dans l'aérophile, des années 40, jusqu'à 46 ans, ce dimanche étude va paraître en photo. Illustré de vendre des dessins. Alors, à ce stade de la conférence, vous allez dire, ça va déjà être écrit avant la conférence, quel rapport avec la science-fiction ? Eh bien, c'est que, en fait, pas mal de ces dessins sont directement des dessins conjecturaux, moi je dirais véritablement des dessins science-fiction. Alors, ce que je vous montre là, ce que vous voyez apparaître là, c'est pas du tout un dessin de Herrera, mais ça pourrait. Hein. Ce sont le type de dessins qui illustraient les ouvrages bien connus de Gamow. Hein. Je pense que dans la salle, tout le monde connaît au moins le nom de Gamow, hein, qui est un physicien américain d'origine russe, comme son nom le laisse supposer, et qui a écrit un très grand nombre d'ouvrages de vulgarisation, de très très bons niveaux, qui ont l'intérêt d'être illustrés de tas de dessins pittoresques dans lesquels un personnage, en général, c'est M. Tompkins, mais ça peut être des personnages, souvent M. Tompkins fait ceci, M. Tompkins. C'est cela, le monde a avancé le premier. Hein. Et il paraît d'ailleurs, c'est 3 juin 1940, c'est exactement l'année à partir de laquelle le général Herrera fait paraître ses articles illustrés dans l'aérophile. Alors, le dessin que vous voyez, il est tiré non pas de M. Tompkins, ce moment-là, mais de notre volume paru après de Gamow, qui vous montre bien l'ambiance. Qui règne dans les oreilles de Gamow, vous voyez des personnages humains plongés dans un monde différent, dans un monde où les lois scientifiques sont différentes de celles de notre monde, ou alors en inverse, ce sont celles de notre monde, mais les personnages sont réduits ou modifiés de manière à ce qu'ils puissent apparaître d'une manière, on va dire, ludique, hein, dans le monde qu'il s'agit de décrire. Et à partir de ces comparaisons, à partir des constatations qu'on fait des petits personnages, en principe, le lecteur va avoir de comprendre un certain nombre de phénomènes physiques. Je dis en principe parce que, pour le coup, la lecture sérieuse des ça va être très drôle parce que les images vont apparaître de manière un peu aléatoire. Là, vous avez un dessin de Vera qui fait juste au moment où il espère qu'il va faire son expérience avec son scaphandre. Donc, on voit, vous remarquerez la planète a une petite tête à un petit choc, assez typique de l'intérieur. Là, c'est bien ce que Vera aurait aimé faire. Le dessin de 36, c'est se dessiner lui-même dans la nacelle. Malheureusement, c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais faire. C'est, voilà, ça, ce piece-là, c'est celui dont est extrait le dessin que vous avez vu tout à l'heure. Vous voyez des personnages, vous voyez l'assemblage de l'atome. Alors, là, c'est le premier dessin de Herrera, de sa série de Herrera, que je vous montre. La légende, elle est assez étonnante. Hein. Herrera, ce livre, avant de rentrer dans l'histoire même de l'explication de ce que c'est que l'aéronautique, de ce que sont les lois de l'aéronautique, quand même, ce livre a toute une série de petites spéculations et explique un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout en face de sens. Là, vous voyez, il essaie d'expliquer ce que c'est que l'atmosphère, ce que c'est que la pression atmosphérique. Et comme une petite explication sur le dessin qui est assez déconcertante, hein, je vous permets de le dire. Étant donné que la pression atmosphérique est un effet dû au hasard des chocs moléculaires, il peut arriver que pendant une seconde, aucune molécule ne vienne frapper le corps d'un homme de haut en bas, ce qui lui ferait faire un bond de 400 mètres de hauteur. Alors rien que cette prétention, je suppose qu'il y a des gens qui ont une petite formation physique dans la salle, mais ça nécessite une certaine réflexion. Ce n'est pas une chose qui tombe sous le sens. Ce qu'écrit Herrera là-dedans, et assez souvent dans les dessins qu'il fait, dans les explications qu'il fait, Herrera s'amuse à donner dans le paradoxe, à surprendre le lecteur, à énoncer des choses qui sont vraies, mais qui sont troublantes pour le lecteur.
Là, c'est un bon exemple. C'est vrai, chaque fois qu'un homme fait un bond, c'est 400 mètres de hauteur.
Pour le coup, oui, c'est bien dans ces conditions que ça se produit. Alors, le fait que ce soit pas courant est un autre nombre là-dedans. Alors, pour l'astronautique, pour l'aéronautique elle-même, plutôt, vous voyez, Herrera a essayé d'expliquer ce que sont ce que c'est que comment fonctionne l'aile d'un avion. On peut en rire, la manière de pourquoi un avion vole et pourquoi une aile est utile n'est pas une chose qui tombe sous le sens. C'est loin d'être évident. Alors, Herrera essaye de donner toute une série d'explications très, très développées. Son essai est un essai extrêmement développé et très simple. Voilà, pour que ce soit droit, voilà, il invente une aile est donc élevée dans l'air par l'action combinée de la succion agissant sur le dos, l'aile, et par la poussée de la suppression sur l'intradôme. L'air, en s'écoulant sur l'aile, agit comme s'il créait un poulpe aérodynamique qui aspirerait le dos et un bélier qui pousserait l'intradôme. Étant trois fois plus puissant que le bélier. Bon, alors moi je placerais ça dans la science-fiction standard. Les amateurs d'animaux fantastiques diront que c'est de la fantaisie. Là, si j'ai beaucoup de chance, vous allez avoir à peu près le même dessin, mais dessiné d'une autre manière par Herrera. Oui, si, c'est une chance. Voilà. Donc, revoilà le poulpe, et voilà le bélier. Vous voyez les aphorismes, le poulpe en train de dévorer le bélier. Et ça, il faut quand même savoir. Hein. Il y a 800 dessins comme ça dans le numéro de les refus.
C'est pour un livre.
Alors, oui, bien sûr. Mais là, vous pouvez faire du livre, même si c'était un spécialiste de la production en réaction, mais on reviendra là-dessus. Alors, dessin suivant. Alors là, c'est la figure 86. Ça va brusquement, je ne me souviens plus.
66.
Oui, 66, oui. La photo était magnifiquement placée. Normalement, voilà, ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, en fait, c'est. Alors, je m'étonne de ne pas avoir reconnu ce que c'est. La scène est extrêmement difficile à supporter pour beaucoup d'entre nous. C'est une allégorie très cruelle. C'est la lutte entre des mathématiques pures et l'expérience concrète. Et hélas, vous voyez que l'expérience concrète l'emporte sur les mathématiques. C'est assez bien montré d'un point de vue symbolique, hein, puisque le symbole mathématique, on se recevra un coup de règle sur le. Bah, apparemment, Herrera avait constaté que, lui étant dans les deux domaines, assez souvent, ces calculs mathématiques ne correspondaient pas à ce qui se passait dans la réalité, ce qui est très énorme. Oui. Voilà, donc on voit ici donc, l'expérience l'importance sur l'importance de la mathématique, ce qui est une scène que je comprends traumatisante, donc je ne vais pas insister. Donc je passe à la suite de Herrera, pour les amateurs de sciences fiction, on a de la chance, c'est extraordinaire. Là, nous voyons l'action se passe sur la planète Mars. Hein, c'est l'histoire pour expliquer des histoires de pression et compagnie. Et on voit un tripode martien, et ce qu'est le petit martien, qui est directement martien. Alors ça, c'est une caractéristique de son Herrera, qui permet de le rapprocher de la science-fiction, c'est qu'il fait sans arrêt des allusions à Julien, bien sûr, évidemment, mais aussi à Ouest. Et dans ce dessin, il ne peut pas s'empêcher de faire une petite théorisation pour rire de la cavorite d'Ouest dans les premiers hommes dans la Lune, puisque Herrera étant finalement un Einsteinien convaincu, il sait bien qu'on ne coupe pas comme ça au champ de la pesanteur avec une espèce de mine. Mais il s'amuse à imaginer la chose dans des épisodes de ce dessin. Assez long, et c'est assez jouissif à lire. Hein. Et il aime bien mettre en scène des personnages martiens, donc ici nous voyons le tripode martien. Il s'intéresse aussi beaucoup, il est comme tous très marqué par Julien. Alors là, nous avons quelque chose qui va ça nous permet d'ailleurs de voir à quoi ressemble une couverture de l'aérophile de l'époque, hein, c'est une revue de. Plus en format que ça, c'est un format revue. J'aurais bien aimé vous en apporter, j'avais au moins une vingtaine chez moi. J'en suis capable de retrouver un gros des amis, mais vous voyez au moins le par ensemble une ouverture de fil, et vous voyez une espèce de présentation qui est quand même assez drôle, qui montre que Herrera est un mathématicien, un farceur. Je vous dis un petit peu le texte, c'est le monde des imaginaires. Tout le monde sait ce que c'est que le monde des imaginaires ici. Alors, pour trouver un système de représentation conforme, il faut recourir aux entités imaginaires. Il parle d'une série de calculs nécessaires pour s'y retrouver en néolithique, c'est une série de calculs. Donc, l'application au monde réel sera des plus étroites. La figure présente ce qui arriverait au Madison Square de New York si le temps et les dimensions de l'espace étaient imaginaires. Chaque véhicule tamponnerait tout autre véhicule et tout obstacle, les mobiles se rencontrant. Les corps ronds comme le soleil en tournant comme les roues ou les horloges auraient la forme d'hyperbole. Les bicyclettes deviendraient bi-hyperbolettes, les cercles arrière imaginaires sur des hyperboles. Ça, Herrera adore inventer faire des logismes, qu'il a fait tout le temps dans son étude, c'est extrêmement amusant. Je trouve que c'est extrêmement amusant. La résistance de l'air pousserait les avions qui n'auraient plus besoin de moteur. Vitesse imaginaire produit de résistance de l'air négative, les voies de route seraient en zigzag au lieu de droite. La ligne en zigzag serait plus courte que la droite parce que le cosinus de l'angle imaginaire est plus grand que l'unité. Personne ne veut nous comprendre. Le sommet de la métropole et les autres particules seraient plus proches de l'observateur placé au sol que la base. L'hypoténuse d'un triangle rectangle imaginaire est plus courte que l'hypoténuse. Les corps tomberaient vers le ciel. Si le temps est imaginaire, la chute devient négative, etc. Donc il s'amuse, évidemment, quand même une convention d'artiste à représenter cette univers. Là, on est absolument dans le même type de représentation que s'amuse à faire Gamow dans sa série. Moi, ça me semble, pour moi, assez remarquable. Et j'annexe ça à la science-fiction. C'est la description d'un monde dans lequel on va dire en gros que les constantes physiques ne sont pas les mêmes que celles de celui que nous connaissons.
Est-ce qu'il parle d'un kilomètre ?
Est-ce que, alors, le kilomètre, mais il n'est pas loin parce qu'il parle du kilomètre, mais il évite le kilomètre. Alors, un autre dessin aussi allégorique d'Herrera, là, ce qui est le monde des logarithmes. La découverte du pays des logarithmes. Alors là, c'est aussi un jeu de mathématicien. Il faudrait une demi-heure pour décrypter chaque élément est mieux que Gérard fait ressortir dans son dessin. On a tout un travail à faire là-dessus.
C'est ce que vous avez demandé, absolument,
mais c'est ce qui s'amuse à décrire en fait. Et on est, il présente des échelles logarithmiques, forcément. On pourrait s'amuser à regarder chaque détail. Chaque détail est pensé. C'est pas c'est rigolo comme ça, mais c'est encore plus rigolo si on entend le détail, parce que chaque détail est pensé. Bon. Là, on revient aux amateurs de l'aéronautique. Vous avez tous eu des ouvrages, enfin, en général, anciens de vieilles science-fiction, dans lesquels on utilise le champ magnétique terrestre pour faire voler des objets. Herrera remarque que ça marche très bien. Il suffirait juste que le champ magnétique terrestre soit 100 000 fois plus important qu'il est, pourquoi pas. Et donc ça permettrait de faire voler ce type d'engin. Dépourvu d'elle, il suffirait de courir sur les lignes magnétiques, si on peut se dire. C'est quelqu'un qui aime beaucoup. Herrera aurait pu être vraiment auteur de science-fiction. Il y a peut-être un esprit de formation qui était. Le cours de sa vie n'était pas celui-là, mais là, il n'a rien d'autre à faire, et en France, il n'a même plus terminé le boulot. On va en revenir après sur un certain niveau concernant ce que fait Herrera pendant la guerre en France, et s'amuse beaucoup à dessiner sa grande histoire. 825, quand même, je vous rappelle, et un texte qui est vraiment dense. Alors, je verrai, évidemment, comme tous ces. Les ingénieurs, les gens qui deviennent ingénieurs aéronautiques ou grands voyageurs, etc., nés dans la deuxième moitié du 19e siècle et après, donc Herrera, je l'ai déjà précisé, est totalement fasciné par Jules Verne. Il y a un témoignage de ses amis qui dit que quand il vit à Madrid, au début des années 30, son appartement était constellé de dessins d'engins de Jules Verne qu'il avait dessiné lui-même. En voici un exemple. Figure sans permis, c'est lui, qui dessine pour son histoire, son étude sur l'aéronautique. Et alors, comme tous les gens de son temps, et même après, Herrera surestime les connaissances de Jules Verne. C'est assez drôle, il le sait en fait. Ça lui fait plaisir de présenter Jules Verne comme un précurseur, comme le font tous les admirateurs de Jules Verne qui vont faire une carrière scientifique. D'ailleurs, voilà ce qu'il explique à propos de ce dessin qui représente un engin dont je n'ai plus besoin de vous dire le nom, l'Albatros. Je le redis, mais parce que je vois marqué ici, parce que j'avais oublié. Alors, la même puissance appliquée sur un grand nombre d'hélices donne une plus grande poussée axiale de portance que si elle était appliquée à une seule hélice. Ce principe, quoique ignoré à l'époque, dans l'époque de Jules Verne, a été prévu intuitivement par Jules Verne lorsqu'il a créé l'aéronef Albatros dans son roman Robert le Conquérant. Oui, donc, il y a peu de chances que Jules Verne ait découvert cet accomplissement. Et d'ailleurs, en fait, pour tout dire, Jules Verne s'est inspiré de dessins de l'époque antérieure à son roman, de tous les amis de Jules Verne qui je ne sais plus qui c'était, mais il y avait de la Rondelle qui était un des théoriciens. Quand on avait cours, on vient faire des petits hélicoptères, etc. Ils se sont intéressés à. Dessiner pour des hélicoptères, hein, sous forme de jouets ou sous forme de monnaie imaginaire. Il y a très vite eu des dessins avec une forêt d'hélices comme ça, que Jules Verne a utilisé. C'est pas lui qui l'a inventé, c'est encore moins parce qu'il pensait que. Parce qu'il avait une très bonne intuition. Ça, bon. Et ça fait plaisir à Herrera de faire ça. Pour lui, Jules Verne, c'est un initiateur de la science qui a marqué dans son enfance. Et lui est éternellement reconnaissant. Et à l'Espagne, chez les ingénieurs aéronautiques espagnols, c'est comme dans l'Ouest, hein, quand la légende est plus belle que la réalité, quand on imprime la légende, il n'y a pas une Ouest américain qu'on fait comme ça. Et là, je pense que c'est assez justifié. Alors voilà, autre hommage à Jules Verne, qui est l'utilisation du fameux au de Jules Verne, sauf que là, Herrera explique qu'on pourrait améliorer le fonctionnement de l'humain qui est retourné sur son axe de manière à créer une pesanteur artificielle qui permettront aux voyageurs de marcher sur les parois non plus. Évidemment, ça ne résout pas trop le fait qu'ils ont été effacés au départ, ni que je vais avoir des problèmes à l'atterrissage. Mais. Non, mais il reste effectivement dans le symbolique, et de toute façon, toutes les absurdités, il les explique dans le texte, mais ça ne fait rien. Ça l'amuse de faire ce genre de spéculation. Alors voilà, on le revoit de nouveau, regardez dans ce dessin qui est assez magnifique, où il présente le fonctionnement de l'univers de manière assez allégorique. Curieusement, ça illustre une partie de l'article qui s'appelle « Qu'est-ce que le groupe autopropulseur ?» Parce qu'à un moment donné, il part sur la notion d'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie ? Alors là, vous avez l'énergie électrique, l'énergie cinétique, l'énergie élastique, c'est-à-dire aussi. Hein. Et elles échangent leurs unités de mesure dans les grandes roulettes de l'univers tenues par le père Uranus. Vous voyez, toute une série d'influences qui se bousculent dans la tête du général, de toute provenance, avec un humour certain. Et moi, je me retrouve en sorte de la caricature qui montre chez la part d'un général espagnol une certaine décontraction que l'on n'associe pas nécessairement à cette fonction. Général espagnol de l'armée républicaine en déroute. Alors, un autre dessin où il s'amuse, évidemment, il regarde les publications de l'époque. Les tentatives aéronautiques qui sont faites de l'époque qui nous amusent beaucoup et ils montrent en plus différentes propositions qui sont faites à base d'ailes battantes de toutes sortes, avec une efficacité qui est très vite par lui démontrée comme nulle. Oui. D'ailleurs, elle est prouvée nulle par les véritables essais qui sont menés aussi à l'époque, parce que certains de ces engins, il y en a quelques-uns qui ont réellement été un peu expérimentés. Avec des résultats mitigés.
On revient avec le Star Wars encore.
Extrêmement mitigé, voilà. Un autre type de dessin qui montre pour s'amuser, mais ceci, vous voyez, je tiens toujours à le préciser, dans des articles extrêmement sérieux. Je vous épargne les graphiques techniques qui, eux, sont beaucoup moins drôles et extrêmement sérieux. Et qui ont attiré des envies d'ailleurs. Alors voilà, on montre aussi que. Là, en fait, il s'intéresse à la série importante.
L'illustration du cheval.
Oui, alors il explique en fait, il rappelle que l'imitation, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs c'est assez amusant, l'imitation des animaux n'est pas toujours la bonne solution. Une voiture automobile dotée de jambes comme le cheval serait assez peu commune en fait.
Ça existe vraiment, ça?
Oui, ça existe, mais c'est l'intérêt moyen. Ça existe effectivement. Alors, je vous ai sélectionné celui-là, mais il a aussi plusieurs extrêmement amusants. Alors là, je prends celui-là, mais je m'amuse parce que on voit que Herrera, lui, pendant sa jeunesse, tout ce qu'on lisait en 1900, on est dans les
années. C'est le stocker.
Oui, c'est un peu la raison, parce que si tu veux, il présente quand même un acrobate en plus, tu vois, il y a peu de chance que ça vole. Et ça l'amuse de rappeler tous ces dessins qu'il devait lire, lui aussi, quand il était encore en jeune homme. Fin du 19e, en 1900, tous ces dessins absurdes avec des personnages avec des ailes qui allaient présenter l'univers aéronautique de l'avenir, un petit peu différent de celui que Herrera va connaître et va participer à l'aéronautique. Alors, après avoir distillé donc, sur plusieurs années, sur 800 dessins et des kilomètres de texte sur ces théories sur l'aéronautique, il illustre aussi toute une série, toujours pour l'aérophile, hein. Là on est en 1945-46, il illustre toute une série de trucs sur des petits problèmes aéronautiques. Alors on va poser la question d'ailleurs. Ça se passe en l'an 3500, alors, il y a la plume quand même, 16-7, là. D'après la progression des. C'est l'humour, hein, je rappelle, c'est l'humour, pour faire rire les lecteurs de l'aérophile qui sont censés comprendre la question. Dans la progression des records de vitesse des avions, on peut espérer que pour l'année 3500, on aura atteint 30 000 km/h. Dans ce temps-là, les avions voleront en position renversée, c'est-à-dire les passagers ayant la tête en bas et les pieds en haut, sauf pour le départ de l'atterrissage. Pourquoi ? Alors, par exemple, le Florent Kiss qui s'intéresse à la physique, pour quelle raison ?
Oui.
Pourquoi l'avion volant à 30 000 km/h, les passagers se retrouveront les pieds en mer et la tête en bas. Non, c'est peut-être, c'est faire appel à un truc un peu trop puissant, peut-être.
C'est la force centrifuge.
Non, c'est la force centrifuge. Bon, et c'est effectivement humoristique, puisqu'il y a la notion de l'avion qui va à 30 000 km/h, on montre autre chose. Et ce qu'il dit, c'est que si effectivement on imagine un avion qui vole à cette vitesse, les personnages vont être écrasés vers le haut à cause de la force centrifuge, et autant qu'à faire, autant bien tourner. Et te faire remarquer que le départ et l'atterrissage vont être compliqués aussi. Non, là, tout d'un coup, j'ai plus d'image, parce que j'ai plus de parfait tout, mais j'ai un peu plus fait le tour. Il y en a une qui était passée tout à l'heure, que je vais essayer de retrouver, qui semblait absurde. Voilà, qui laissera un petit peu moins là. Alors, en fait, arrive donc ces articles qui m'intéressent beaucoup, donc sont distillés dans la fuite. On arrive à la fin. Pendant la guerre, il faut savoir que la vie des ingénieurs en aéronautique est compliquée pendant les années mondiales, surtout quand on est d'immigré espagnol républicain. Alors c'est assez curieux parce que Herrera a plusieurs propositions de travailler. Alors il a des propositions de travailler en France, ça ne pose pas de problème. Il a même des propositions de travailler à l'Allemagne. Actuellement, qui travaille sur les grandes vitesses et sur les écuries, comme ses travaux l'invitent à venir travailler en Allemagne. Alors ça ne se fait pas, Herrera se méfie quand même un peu, et puis le général Franco, de toute façon, auquel il faut demander son avis sur ce que font les Espagnols, refuse de donner l'autorisation pour que Herrera puisse travailler en Allemagne. Au début, les Allemands sont choqués pas plus que ça. Ils ont approché Herrera et puis les affaires politiques ont fait qu'il n'a pas travaillé
pour eux. Ça n'a rien à voir avec Messer Schmitt 260.
Ça n'a rien à voir avec Messer Schmitt 262, absolument. Et alors, on apprend des choses très curieuses en disant des mémoires du général Herrera, ce que je ne vous raconte pas. Enfin, à part l'aérophile que je connais quand même par cœur, la plupart des objets sur Herrera, c'est sur.
Tu fouilles dans la poubelle?
Oui, c'est ma poubelle, c'est pour ça qu'il y a tout dans. C'est ce bouquin par le professeur Thomas Jolie qui a fait traduire le mémoire d'Herrera, qui était purement manuscrit. C'est exact, ça existe en anglais, mais je ne suis pas sûr que ça existe en espagnol. Et c'est souvent en français, mais on apprend énormément de choses
là-dessus.
Notamment, ce qui est assez drôle, c'est que, comme tout le monde dit tout à l'heure, dispersé par la guerre civile, et il se trouve que le beau-frère d'Herrera, lui, était le chef des chemins de fer espagnols sous Franco. Donc en fait, le monde est quand même petit. Et son beau-frère, lui, pendant que Herrera était en exil en France, lui, va en Allemagne travailler avec les Allemands, et en revenant dans l'Allemagne, il fait une escale en France, il va voir sa sœur, la femme du général Herrera, et il va morceau de famille qui est allé en France en exil, il a entendu à l'Allemagne qu'on est en 44, l'Allemagne a préparé une arme terrible qui va bientôt détruire Londres et la moitié de l'Angleterre. Et il a entendu ça, il est très sérieux, il a expliqué tout ça. Il ne pas dans les oreilles de sourds, etc. Et lui se dit, une arme, il a l'air sur de lui, une arme formidable, qu'est-ce que ça peut être? Je pense que c'est une bombe atomique. Il commence à voir ça et il se dit, tiens, je vais écrire un article sur la possibilité de fabriquer la bombe atomique que je vais soumettre à la revue du travail, l'aérophile. Et comme il sait que tous les articles de l'aérophile vont passer par la censure allemande, l'ingénieur militaire récupère tous les articles scientifiques français, qui récupère les articles scientifiques français, regarde ce qu'il y a dedans. Et l'article passe sous les yeux de. Censeur allemand, qui dit à chaque fois, vous laissez passer ça, il faut que je demande à Berlin. Et il dit non, hors de question de faire passer cet article-là. Donc, le général appels de vélo contre les télévisions qui ne sont pas encore entrés à l'action.
Un peu plus d'étonnalité aux Allemands, enfin, de modélique. Un peu plus d'étonnalité aux Allemands.
Un peu plus d'étonnalité aux Allemands. Ça, c'est pour moi. Donc, il en conclut, lui, que son article étant refusé, c'est qu'à l'Allemagne, on travaille dans la modélique. Bon, c'est pas. C'est pas tout à fait juste, mais c'est ce qu'il se disait à l'époque. Par contre, il. Après la capitulation allemande, il recompose son article à l'aérophile qui avait inventé des petits dessins. Alors, moi, je ne les ai pas, mais très rigolo sur la bombe atomique. L'aérophile ne veut pas les publier, mais c'est plus fantaisiste. Il réussit à le faire publier dans une autre revue en France. Hein. Ça s'appelle Génie Civil, qui est très mouvement en Sardaigne, ça s'appelle Génie Civil. Et l'article paraît 15 jours avant le bombardement d'Hiroshima. C'est vraiment des tout premiers articles. Du Nord, c'est vraiment le tout premier article de l'actualité, avant l'actualité qui décrit la possibilité de fabriquer une bombe atomique. Ça, ça paraît dans une revue française. Alors, pour terminer, en rapport avec ce dessin que je vous projette là, qui n'est pas très beau, parce que c'est pareil, j'ai l'original qui est un espèce de BD, c'est joli en couleur, je sais plus les lits, que je n'ai plus de reproduction dans les mains. Ce qui est curieux dans ce dessin, c'est le plus curieux pour moi, c'est l'espèce de V2. Avec sa tête qui se défait, vous voyez en haut, une espèce de V2, donc de fusée V2, quelque sorte piloté. Alors, c'est amusant parce que, après la capitulation, les Alliés récupèrent évidemment des V2, la France ne sait pas, c'est bien, on ne le rappelle pas toujours, a aussi récupéré un paquet de V2 allemands, une bonne centaine, donc plusieurs ont fait aller en France, et dont certains sont. Était partie de commande des programmes spatiaux français et de la fabrication des premiers moteurs à réaction français. Ils sont souvent à partir de travaux de général allemand. Et même Ariane, le responsable des débuts d'Ariane, était un général allemand qui a terminé sa carrière en France. À l'époque, il était généralement aéronautique et était très demandé. Et Herrera fait une position intéressante à l'organisme français sur la recherche aéronautique qui lui achète des études. Ce serait de lancer à 180 km de l'heure d'auteur en V2. Et Herrera pense que les Français ont récupéré des V2. C'est à quoi qu'il est vrai à l'époque. Les Français ont récupéré des pièces de V2 dans ces moments. Je ne crois pas qu'ils aient récupéré des V2. C'est pas si facile que ça dans l'ensemble de V2 du tout. Son idée, c'est de faire une cabine de pilote. Le pilote monte à 110 km d'altitude et là, il va sauter en parachute avec sa magnifique
combinaison.
Il propose même, il dit moi je trouve des pilotes, j'ai plein de pilotes de l'armée républicaine espagnole qui sont exilés, qui sont ravis de servir la France dans cette expérience. Curieusement, la proposition n'est pas acceptée, c'est très dommage. On peut s'aimer avoir un pilote espagnol de l'armée républicaine des routes sautant en parachute, un V2, envoyé à 180 km de hauteur vers 1948. Voilà, je pense que le personnage du général Herrera a été peut-être un peu sorti de l'oubli. Et c'est votre intention, j'attends vos questions. Alors non, il n'a pas écrit de texte de science-fiction. Les seuls textes que Herrera a écrit, ce sont des articles scientifiques en grand nombre. Hein. C'est un métier aussi en autre partie. Hein. Il y a beaucoup de textes scientifiques. Il y a des scientifiques en espagnol, techniques scientifiques. Très peu de textes ne relevant pas des domaines scientifiques. Et finalement, la science-fiction a parlé uniquement dans son essai sur qui, comme je l'ai dit plusieurs fois, extrêmement sérieux et très très technique, mais très très entolardé de petits dessins et de plaisanteries perpétuelles. C'est très très nombreux. Sans arrêt, ça arrête pour faire des plaisanteries, faire des petits dessins au milieu des montants. Et c'est un aspect C'est son aspect si on a un sens. Alors, dans ses mémoires, non, il ne se recommande. Il n'y a pas d'allusion à des illustrateurs. La seule allusion qui revient tout le temps, c'est Jules Verne. Mais il n'y a pas de nom d'illustrateur particulier. Mais c'est une question. Moi, je me suis demandé s'il connaissait. Je vais pas chercher le trait. Enfin, je regarde.
Ça
fait très intéressant. Également, s'il connaissait le trait de Gabon Fontane. Ça me paraît du peu. C'est à vérifier. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Je ne sais pas d'ailleurs comment les Gabov, si ça paraissait en revue d'abord, c'est possible, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, ou directement. Oui, en tout cas, le premier sujet-là, normalement, il parle en quatre. Je ne sais pas s'il y a d'abord une. Je parle de Gabov, s'il y a d'abord une publication en revue, c'est possible. Je ne l'ai pas vérifié. C'est à vérifier. Est-ce que ce serait plutôt mieux sous les yeux des RERA qui fichent, si j'ai obligé à faire un petit dessin comme ça. C'est tout à fait possible. Mais comme il faisait déjà avant, dans les années 30, et bien avant même, des dessins représentant les engins verniens, je pense qu'il n'avait même pas besoin de l'inspiration de Gamov. Mais il y a cette idée de faire intervenir les personnages humains, ou de modifier les personnages humains. Parce que là, je n'ai pas projeté, mais il modifie aussi les humains, il leur met des ailes, les transforme en espèce de créatures bizarres comme des poules et comme les réunions, le fait subir aux humains aussi pour ces démonstrations sur la conservation de l'énergie, des choses comme ça. Donc c'est assez curieux cette intrusion qui intéressera de la déformation humaine dans une tentative de faire une démonstration scientifique, enfin d'illustrer une démonstration scientifique. Ça me semble peu courant. Hein, ça va le devenir, mais à l'époque c'est plus courant. Moi c'est vraiment Tolkien, c'est vraiment l'équivalent des RERA, mais RERA est là. Vous voyez dans le film, ça n'a jamais été réédité, totalement tout à fait inconnu. Donc vous êtes tétanisé, vous êtes parfait de la
question. Oui, c'est un des premiers à avoir fait ce genre de choses, parce que il est réputé, parce que surtout c'était un très très bon physicien.
Oui, c'est un
bon. Ce qui aurait mérité largement le.
Je dis un des premiers, alors on vous dira pour trouver Fortis qui est là, pour trouver des choses bien précédentes, pour mettre en scène des personnages.
Dans la presse d'époque, il y a beaucoup de choses.
Ce qui me semble nouveau dans Jenkins, c'est surtout d'avoir. Il avait une connaissance suffisante de la mécanique quantique pour pouvoir faire ces petites histoires.
Je ne sais pas, les personnages de la RERA étaient du même niveau, mais les RERA pouvaient effectivement discuter avec. Ce n'est pas une boutade. Et lui-même, le jeune homme avait, à l'époque, dans les années 10, avait ses idées sur la gravitation, sur l'idée d'espace sacré. Son idée, c'était qu'on avait besoin d'ajouter des dimensions à l'espace, et d'ajouter des dimensions à l'espace, de manière étagée pour essayer d'expliquer les phénomènes de la gravitation. Et c'est quelqu'un qui était de très haut niveau, c'est d'ailleurs il était membre de l'Académie scientifique espagnole, c'est un ingénieur aéronautique, mais c'est aussi un mathématicien de haut niveau qui était tout à fait capable de comprendre les équations de la mécanique quantique et de discuter avec le relativiste, pardon, de discuter avec Einstein. D'ailleurs, dans les années 60, d'ailleurs, donc à la fin de l'année RERA, mais en Espagne, il y a un type qu'il connaissait bien, d'ailleurs, qui avait fait travailler, un scientifique qui avait fait travailler en RERA dans un institut aéronautique, qui s'était lancé dans une campagne contre la théorie de la relativité. On n'a pas Espagne, c'était un scientifique de niveau. Il y avait encore des gens qui, dans les années 60, contestaient la théorie de la relativité. Alors, ça paraissait dans la presse espagnole qui était furieux, disant l'Espagne, la science espagnole devient la risée du monde entier avec ses articles d'un type que je connais bien, pourtant que tu es un ami, que tu es un scientifique de l'art, qui visiblement ne comprend rien du tout. La relativité. Là, il n'est pas le seul, je vais dire une question, il n'est pas le seul à rien comprendre la théorie de la relativité. Plutôt, sans compter la cohorte de gens qui pensent comprendre, qui en réalité ne comprennent pas. dessins, il fait des dessins vraiment complexes hein, sur. Il aurait pu faire des choses équivalentes, tout à fait équivalentes à ce qu'a fait Gabor, effectivement. C'est juste un général. Voilà.
Merci. Merci.
So I guess the first does the world look like 80 years from now? And one of the key things about our project is that we want to actually invite the users or the fans or the readers to help tell us the story. We really want to try and create a story that is we want to create a story that is collaborative with our community and with our fans.
So Solarius, the project has a few different aspects. As Igor said, it's a science fiction story that explores the human relationship to technology in the near future. It's also a community of creatives, writers, artists, filmmakers, game designers, etc., and their viewers and readers and collaborators building a story that they own together. And Solarius is also an online platform that will support this peer-to-peer transmedia content and story. So we launched in February of this year, and we are currently building the platform and commissioning a first round of works from artists and writers and filmmakers we admire. And we expect to launch the first version of our platform later this year.
Question. Mm-hmm. I thought you missed our love.
Keep it within the realm of
you know, to put writers and artists from all over the world in this one conversation around these core science fiction questions.
Yeah, and so to that point, I mean, if you think about your favorite franchise, sci-fi franchises that take place on Earth, you know, I think there are a number of cities that will come to mind: Tokyo, San Francisco, New York, maybe London, that are kind of the centerfold of these science fiction stories, and that's in things like Blade Runner and obviously Star Trek as well. Starfleet is in San Francisco. And so there are definitely these main cities in science fiction today, but you know, we want to understand or ask ourselves, what about the rest of the world, right? There are cities that are slated to grow, you know, into the tens and twenties of millions by 2050 that are around the world. Not just in the United States, or not just in Europe, not just in Japan, but all over the world. And so, you know, we're asking questions: what does Kabul, Afghanistan look like? What does Sao Paulo in Brazil look like? We want to know, what does Amiens look like in 60 years from now? This piece of art is actually a piece of art that we have commissioned from in Herat, Afghanistan. It's a project called Code to Inspire, and they have kind of a bunch of freelancer women who kind of work together in Herat, both with art and with technology. And you know, we're looking out to these kinds of different groups and asking them, well, what is science fiction in Afghanistan mean? You know, and it's interesting when I was talking to them, I asked, do you guys have science fiction? Are there science fiction writers in Afghanistan? And their response was like, of course we have science fiction. We have Star Wars and we have Star Trek. You know, it's all from the West when it comes, and we read it and we know it. And I asked, well, do you have your own writings? And they say, no, like we don't have any of that. But what they do have is mythologies, right? So I asked, instead of science fiction, what are your mythologies? And I think the one story I was chatting with them about is I don't know exactly what it is, but it's a hunter kind of type with his favorite horse, and the horse has magical powers, and there's a falcon that visits them, and it's like, okay, so you do have stories, right? You do have a collective culture. You know, teaching these girls and teaching these communities that they can also embrace science fiction, that the barriers to engaging in science fiction storytelling are actually not that high. You know, creating a place and a community for them to come and also tell their stories is part of the idea of the platform that we want to build, the technology platform, the technology community that we want to enable for these creators.
Yeah, I think we've been commissioning works for almost a year now, and have artists participating from all six inhabited continents. So. story begins with the Genesis block of the Bitcoin blockchain, which happened in 2009. We haven't gotten to this yet, but we work at a blockchain studio, and the Solaris platform is going to be Web 3.0 and blockchain supported. And 150 years later, the story culminates on one of Saturn's moons, the water supporting moon. So now I'll tell you a little bit about what's.
Yes, so Solarius, the title character, the title of the franchise is actually a character, a central character, and you know we want to play around with this idea of the first, the activation of the first super intelligent, sentient, artificial intelligence. You know, we refer to this event as the Genesis thought. Again, that kind of goes back to the Bitcoin thing, Genesis block, Genesis thought. And, you know, the 2084 is supposed to be kind of in the middle of that 150 years and this kind of seminal moment in human history when we're no longer kind of alone in terms of our intelligence. We have this other sentience and what it, you know, what that represents.
So in 2084, when it wakes up, or at least when humans realize that it has woken up, Solaris takes over the entire global energy grid and begins stealing and using all available energy for itself. The Solaris facility was built to be sort of a self-sustaining AI designed to bring humans into space. So it starts as a kind of decentralized AI meant to, it's built for one purpose, and as it gets smarter, it kind of
develops. I prefer for a moment, totally.
A little bit of Skynet, minus the news.
Minus the
news? The news, the new protocols, no new protocols.
So humans can't communicate with each other anymore, technology breaks down, and humanity enters a dark age, which we call the Reformation, so that's one of the main periods of the story.
So, yeah, the Reformation period takes place. It's about a 20-year period or so, and as Mallet mentioned, Solarius kind of takes over the energy supply, takes over the electromagnetic spectrum, kind of removes our ability to use all the great technologies that we have come to rely on in our modern context. And, you know, we want to explore what happens when you take away all the gadgets. And in our universe guide, we introduce this concept that people and groups start to create factions and align themselves really based on their allegiance or aversion to the central AI and other hybrid technologies that kind of emerge from that creation event.
Yeah, part of what we're imagining is that in the absence of all familiar infrastructures and communication tools, like, do nation states begin to dissolve? All of the ways humans are used to organizing ourselves starts to lose meaning in this kind of new dark world. So, how people might respond and form groups would be very different.
Yeah, so again, this is in our universe guide, but it's kind of just also to try and see the universe with groups, different ideas. We have these factions. We have human factions, we have machine factions, and we have hybrid factions. And various groups are more or less fuzzy, warm, or really hatred against the central AI.
So then, about 20 years after it takes all the energy away, Solarius suddenly gives everything back and doesn't explain it. And part of our premise is that we can never really know what Solarius is thinking or what its reasoning is. But humans was having just survived this traumatic period in which a lot of people presumably die, and you know, decided what they think about the AI, suddenly have to reassess, and maybe some people change their minds. People start to speculate why Solarius might have done this, or why Solarius might suddenly want to help or use humans as part of its kind of prime directive. So that's the next story.
There's some explanation why Solarius doesn't communicate about this?
I think internally we all have our own ideas.
Those kind of start to dissolve. So, you know, that could mean anything from cryptocurrency and social networks to the sudden disappearance of those things. But, you know, a digital global society.
Obviously, transhumanism is something that comes up a lot as we start to move technology into our bodies, and our bodies become more mechanical than biological as we start to move technologies into our brains, as our brains become more digital than analog. How does that affect how we see ourselves, how we see humanity itself? The lines are already starting to be drawn in some of the academic literature, even about you know, kind of the transhumanist side that's already willing to forsake kind of our human condition and what it means to be human in the search of like the next evolution. And there's, you know, the other side that says, hey, no, we can't just lose what that means. We need to recognize that humanity in and of itself is a very special, important condition. This picture is drawn by a collaborator of ours named Gwen Singley, and you know, we use this term Homo transcendens, so it's kind of the next evolution in Homo sapiens as the thing that transcends the analog kind of mental wetware that we have. Sorry, yeah, the organic wetware that we have into this new digital.
We also are exploring the idea of techno-optimism, or technical technological optimism, which, you know, part of what we're trying to do with this new franchise is kind of question what we see as a tendency in cyberpunk and science fiction to be very pessimistic about the potential outcomes of our dependence on technology. Obviously, you know, the core of our story arguably might seem pessimistic, but we're also interested in exploring how technology can bring about positive change and, you know, lower barriers to entry to participate in the global financial system, to just the real gift of global digital communication, and you know, inviting collaborators to imagine entirely new positive changes that could take place. So rethinking this this kind of reflexive pessimism about digital technologies,
or at least creating an entry point for some optimism if people want to tell those stories. So we have, I guess, Mally referenced out her kind of Dungeons and Dragons guide. It's a document that kind of intros this world that we're creating, and it's the document that we give all of our artists and our collaborators when we commission them to create art. And it's something that we've gotten, you know, we've gotten mixed feedback, but we've gotten a lot of actually good feedback from our collaborators that they feel like there's a lot of places that they feel like they can sink their teeth into in terms of like a world building starting point for this universe guide. And so, you know, we're definitely proud of it. We've kind of taken this stand where we're not adding to it until we're able to actually talk to the community and have a broader conversation of like what is the next kind of canonized part of this story. We don't want to just do that on our own, and we can talk a little bit about the technology platform and how we kind of hope to do that. So I think Mally mentioned this at the beginning. Some of the inspiration for not only the story, but also our approach to trying to decentralize and make a flatter story and a more collaborative story comes from the ethos of the company that we work for, which is a company called Consensus. Consensus is Consensus is a company of technologists, engineers, not just technologists and engineers, writers and academics, etc., that build projects, build platforms, build products on top of these technologies and envision how these technologies will be used moving forward. Ethereum is a blockchain technology. It's kind of the Bitcoin 2.0. If you think about it, if you've heard about Bitcoin, the next evolution in Bitcoin is Ethereum. And it allows for peer-to-peer decentralized networks to kind of exist in I guess the buzzword that I didn't add here is smart contracts. So Ethereum allows for technology platforms to kind of encode the rules of their platforms into these peer-to-peer trustless systems, and we want to use this system to kind of create that immutable lore that I was talking about. We want to be able to say, hey, look, here's the universe guide. This is core canon of our universe. The Solaris team is not going to be able to like go in and erase, you know, history. Or if I think the example we use is obviously when Star Wars was sold to Disney. Disney kind of said only the films are core canon. All of the existing kind of extended Star Wars universe is no longer the core canon, and they just kind of flushed it out to make it kind of an economic engine with these new films that they keep kind of like pumping out, and they're diluting all that rich universe in order to kind of profiteer. We want to explore if we can kind of use this technology to prevent that problem from happening, essentially.
Yeah, so if we have the digital tools and technologies to actually support it and trust, it's really community owned and controlled. Group of storytellers, then our hope eventually, once we have a robust platform and community, is currently filmmaking is very centralized to Hollywood and a few sort of elite hard to reach companies, and publishing is very centralized, and it's very hard to make a living as a creative in 2018, especially when the internet makes it
Johnny said, we've got about 15 short stories right now from artists, writers from around the world, and we're probably going to publish, again, our first anthology later in the fall of this year.
Yeah, definitely still interested in commissioning more work. Of course, our hope is coming to your economists both to find people who are interested in the platform and interested in helping build this global science fiction community, and also to find like New York City writers who might want to get on board. So if you fall into one of those two categories, we're around all weekend, please talk to us. Can you raise your hand if you've heard of Bitcoin?
decides what's in the universe and what not?
So that's what we want to do with the platform is actually give the community, you know, the ability to say this is how it goes. And one of the things that we talk about, we think it's interesting, maybe it's not interesting in general, but is this idea of reader subjectivity. So if you go on Reddit, which is a community, there's a subreddit called The Empire Did Nothing Wrong. Right? And so it's a lot of just memes and funny pictures, but the idea is this community, the way that they talk about things, is from the perspective that the Empire is actually the good guys, you know, and the rebels are the bad guys. And we like to think about, you know, how does a story kind of embrace that? If the community comes to the table and there's these different ideas of which faction is correct or in the right or whatever, like, can there be this tug of war with the community as well that feeds back into the storytelling? And so by creating this community platform as a part of the storytelling, it's definitely something that we want to like say, like, okay, here's the universe guide, here are the stories now, like, you guys, like, who's on which side? Like, that kind of goes back to the whose future is it, right? It's like, we're not telling you what the future is, like, you're actively engaging in it. So it's a fun thing that we talk about, and we hope to, one of the things we're anxious about is, like, we're still building the technology, so it takes time, but we want to start actually, like, talking to users and getting people engaged.
Yeah, part of the logic of a truly decentralized community platform is that it's up to the participants to vote on their favorite content and what defines the canon. We've kind of offered the skeleton and the tools, but we're not going to make any false assumptions.
And not only the contributors, also the readers of the community.
So one question, are the contributors allowed to feel any of the plans, or are there some forbidden zone, some mysteries that you want to keep this way? Like, for instance, if the writer wants to explain or to describe the rise of this artificial intelligence or why he gave the power back to the humans, do you say, no, that's part of the thing, we don't want it to be explained, or is it okay?
We definitely want people to submit theories. We're not going to say if someone's theory is right or wrong, because that's part of what we want people to kind of debate with their own stories is, why would an AI decide something like that? So there will probably be different factions that have different explanations, and there could be different stories that explain a few different scenarios, and maybe they'd be in conversation with each other.
I think the one thing in the universe guide that we explicitly say to that is we don't think it makes sense, and maybe people were worried about this anyways, but to actually be in the head of Solarius. We don't want
okay.
a first person narrative from
it
that.
It can be only an interpretation of what from the witnesses. So then it's the subjectivity you were thinking about.
Yeah, so it could be like a scientist writing a theory or a group investigating. The other thing, I think you were briefly mentioning the idea of hard science fiction, and the other thing we don't want to be a part of the universe at this time is something like time travel or travel at the speed of light. You know, we want to use the body of knowledge we have and the existing technological tools we have to speculate.
You don't want 10 different universes of you.
Right, yeah.
Well, it might happen, right? Like, I think even in the universe guide, we say, like, right now we want it to be hard science, you know, maybe not, like, all the way super hard science, but, like, closer on that realm. And we envision that as there's more people and as there's more community,
expect them to rise from contributors.
Yeah. Yeah, we've gotten, you know, the commissioned works we have so far explore lots of different types of factions, lots of settings around the world, and we have some really great, you know, rich local characters already. But yeah, that's what we're hoping we'll get more.
Yeah, and to the theme of EuroCon this year with the Afrofuturism, we spend a lot of time, again, I mentioned this before, reaching out to different communities from around the world. I think we've had art from Afghanistan and Nigeria, obviously a lot of the United States. One of the things that's interesting that we hear from our collaborators is when they have engaged with science fiction traditionally, right, they don't see representation, right? I think in the Star Wars films, you can find out how much screen time women have in terms of speaking roles, and it's always way less, especially the original ones. And so for a lot of our collaborators, representation in creating new characters that aren't in the mainstream sci-fi world is like super important to them. And we think that's awesome. I think it's like really, really interesting to you know, put in the extra effort. It's because the internet is pretty easy and we're kind of millennial digital natives, it's easy for us to find people around the world. It takes time, obviously, to cultivate relationships, and it doesn't scale very well, but we can find people if we're like, hey, you know, we haven't had a story from anyone in South America. We can find someone and reach out to them and start a conversation and a relationship with them. After a few emails back and forth, we can commission a story for them. So it's something that we spend a decent amount of time trying to